Mardi 4 mars, alors qu'il fait encore clair, bienvenue à l'aérospatiale. Julie Gagné avec vous jusqu'à 18h30. Aujourd'hui, à l'émission, on fait un petit tour à l'œil de poisson puisqu'on discutera avec Peyo Elisséry de son expo Base 1 qui est présentée jusqu'au 23 mars. Également, on discutera aussi avec Mario Doucette qui présente Bagarre dans la petite galerie de l'œil de poisson et Pow Pow, donc, dans l'entrée vidéo. Dominique Savoie est allé faire un tour à la galerie Michel Guimond pour voir l'exposition 3. C'est la deuxième édition, donc exposition qui présente des œuvres de Jacques Sanson, Claudie Gagnon et Annie Baillargeon. Également, Raymond Poirier viendra nous faire sa revue de presse. Et le tout sera entrecoupé, comme à l'habitude, de suggestions de Simon Roy, qui n'est pas là avec nous aujourd'hui, mais qui quand même a fait un bon travail de sélection. Donc aujourd'hui, on écoute Frank Walk, Stanislav Bobritsky, je pense bien que c'est comme ça qu'on dit, André D. Enargraf, l'album Diary of a Dissident, c'est distribué par Hayes Net Label. On écoute tout de suite un extrait de la pièce Cut Through the Fog sur les ondes de CKRL. C'était un extrait de la pièce Cut Through the Fog, une suggestion de Simon Roy. Vous pouvez trouver le lien pour le téléchargement gratuit des pièces sur le site l'aérospatiale.wordpress.com, également un communiqué de presse, les émissions disponibles en balado-diffusion et les liens pour la revue de presse de Raymond Poirier. Bonsoir Raymond.
Bonsoir Julie.
Comment vas-tu?
Très bien.
Et l'univers des arts visuels, comment il va?
Ben, beaucoup de récompenses, en fait. Les lauréats des prix du gouverneur général et du prix Saïdi Bromfman ont été annoncés.
Ah ouais?
Tout récemment, en fait. Alors, donc, on annonce dans ces prix 8 créateurs qui, dit-on, ont façonné les arts visuels et les arts médiatiques au Canada. Un peu dans la lignée, à chaque année, évidemment, de cet exercice. Alors, on parle cette fois-ci notamment en tête de file un sculpteur qui crée des univers fantastiques à partir d'articles comme des pièces de voiture qui fait partie de ses gagnants. Donc, le Torontois Kim Adams, l'artiste originaire d'Edmonton qui est reconnu pour son utilisation de pièces de voiture, de jouets et de modèles accolés dans ses sculptures contemporaines qui reflète des enjeux socio-économiques et environnementaux. On parle aussi de la photographe et artiste visuelle Angela Gower-Olds, l'artiste de performance et d'installation Raymond Gervais de Montréal, la peintre Carole Wainio et le conservateur d'art Bryden Smith d'Ottawa. On parle également de l'artiste en art médiatique de Vancouver Jace Salum et de l'artiste textile Sandra Brownlee. de Nouvelle-Écosse, et on parle quand même là de bourse d'à peu près 25 000 $. Petit oubli aussi, l'artiste visuel multidisciplinaire originaire d'Angleterre, Max Dean, est aussi lauréat. Lui, qui est du côté de Toronto également, explore dans son œuvre la relation entre le public et l'art. Et il y aura une exposition qui va suivre, si jamais on passe vers le Musée des Beaux-Arts du Canada, à partir du 28 mars jusqu'au 6 juillet, où on présentera justement des œuvres choisies des différents lauréats.
Voilà.
Et j'ai vu quelques commentaires passer. Les gens disaient que c'était une belle sélection cette année.
Ah ouais, bon.
Sinon, un peu plus près de nous, le conseil d'administration du Musée d'art contemporain des Laurentides a confirmé la semaine dernière la nouvelle de la nomination de Jonathan Demers à titre de directeur général. Il est en fonction depuis le 17 février dernier. Monsieur Demers a œuvré pendant 5 ans au Centre d'artistes Axineo de Gatineau, encore comme directeur. Une feuille de route qui compte des collaborations avec le Musée des Beaux-Arts du Canada, la Galerie Sade d'Ottawa, la Galerie R de Paris, entre autres. Il est aussi l'un des cofondateurs de la revue HB, dévolue à l'art du dessin. Alors, ce sera intéressant de voir s'il amènera une direction particulière là, du côté du musée d'art contemporain des
Laurentides.
Des Laurentides, voilà. Sinon, deux décès. Premièrement, on mentionne donc décès de l'artiste moderniste Sorel Etrog. Alors, Sorel Etrog, artiste basé à Toronto, qui a représenté d'ailleurs le Canada à la Biennale de Venise en 1966, qui a designé aussi la galerie des Genie Awards, la statue en fait des Genie Awards. Bon, pour plusieurs, en fait, Etrog était l'un des principaux sculpteurs modernistes, en fait, donc qui a été assez présent dans les années 1960, au moment où la sculpture de type moderniste est en train de prendre un peu plus d'espace dans des galeries et dans l'espace public à travers le monde. Donc, il était vraiment dans cette tendance-là. Et également, on souligne évidemment le côté... c'est un artiste aux multiples facettes. Cette dimension-là qui était très présente, mais reste que il a aussi exploré d'autres pans de l'art contemporain. Et encore, là, dans un article d'ailleurs assez complet sur son travail, on souligne la présence justement du côté surtout du Canada anglais là, de plusieurs de ses sculptures, notamment dans l'espace public. Une perte importante pour le milieu des arts canadiens. Et sinon, je mentionne au passage aussi décès de l'artiste peintre, aquarelliste et graveuse Molly Lam Bobak, qui elle est décédée à 95 ans quand même.
Honorable.
C'est une figure quand même importante de l'art visuel au Nouveau-Brunswick. Elle avait reçu l'ordre d'ailleurs de la province en 2002. Elle a œuvré comme artiste pendant la Seconde Guerre mondiale principalement, et son principal fait d'armes est d'avoir fait partie des quelques rares femmes canadiennes à être envoyées outre-mer pour documenter l'effort de guerre. Et donc, ça a amorcé peut-être un peu sa démarche artistique. Elle a été évidemment une figure marquante du milieu des arts canadiens pendant plus de 50 ans par la suite. Sinon, dernier petit clin d'œil, et je trouvais ça intéressant.
Un petit clin d'œil, je regarde la pile de tes feuilles, Raymond.
Un petit clin d'œil de 12 pages. En fait, c'est le genre de dossier sur lequel on ne rentre pas nécessairement dans le détail ici, dans le cadre de la revue de presse, mais par contre, j'incite les gens à aller faire un tour. Bon, c'est une semaine quand même assez tranquille au niveau de nouvelles spécifiques liées au domaine des arts visuels. Alors, je me suis dit, élargissons un peu autour du domaine des arts en général. Et comme on a un débat perpétuel quant au financement et à la gestion des arts en général, je suis tombé sur une des études qui ont été menées par Il Stratégie, qui ont été relayées par le regroupement des centres d'artistes de RCAAQ, là, exactement. Et donc, on fait un survol assez complet sur différentes réflexions. Donc, l'idée étant d'essayer de voir d'un côté de quelle manière on pourrait mieux soutenir les pratiques artistiques et mieux soutenir la relève artistique. On souligne peut-être que, d'une certaine façon, les programmes actuels ne répondent pas nécessairement adéquatement aux besoins réels des artistes et ne permettent pas nécessairement non plus l'éclosion et la pérennité de la démarche artistique de jeunes créateurs. Donc, où finalement on se retrouve avec une situation où on souligne peut-être un peu plus le travail des jeunes, ensuite le travail des artistes plus établis, mais donc ce creux risque de faire mal à terme. Donc on propose de changer un peu les pratiques à travers ce rapport-là et d'essayer de mieux répondre aussi à l'idée d'échelle, en fait, où tout événement n'est pas nécessairement obligé d'être un événement majeur pour répondre à ses objectifs. On parle aussi de plateformes partagées pour essayer d'aller bonifier un peu le mécénat. Évidemment, bon, de quelle manière on pourrait réussir à aller chercher tout ça? Est-ce que ça vaudrait la peine peut-être de faire une pépinière générale donc pour l'ensemble de l'art canadien, donc qui déclarait tous les revenus, toutes les dépenses? Donc de quelle manière on pourrait essayer d'organiser ce type de plateforme-là, mais qui serait peut-être plus générale que simplement très, très localisée?
Ben ouais.
Est-ce que on peut aussi amener et favoriser la résilience de l'artiste et la résilience de son art? De quelle manière on peut justement favoriser peut-être la co-création? De quelle manière on peut favoriser l'émergence de projets interdisciplinaires, pluridisciplinaires, donc la rencontre des pratiques pour favoriser une ouverture à la complexité,
ouais,
pour permettre à l'artiste de reconnaître et respecter sa vulnérabilité, celle des autres, la collectivité, de privilégier la curiosité, la souplesse, etc.
Ouais, parce que là, on s'entend aussi avec les subventions, c'est souvent par discipline. Et dès qu'on est comme à la frontière d'une ou deux disciplines, déjà, ça vient complexifier la chose.
Et on dit que c'est pas à travers ce type de silo-là qu'on va créer des arts vivants, des,
ouais,
arts résilients et des arts qui vont réussir justement à continuer de faire leur marque à l'échelle nationale, mais peut-être aussi à l'échelle internationale. Et à travers ça, on dit, ben justement, il faut aussi essayer de développer un secteur de manière générale qui, lui aussi, est résilient à travers l'idée d'innovation comme idée de transformation d'idées créatives en stratégies réalisables que les organismes peuvent réellement mettre en œuvre. Et on y va avec plusieurs mythes et plusieurs perspectives liées à l'innovation en art, justement, avec cette idée qu'il faut justement un changement adaptatif et un changement adaptatif qui est de plus en plus urgent au fur et à mesure que, disons, les réformes et les programmes sont marqués par une certaine inaction.
Voilà, Raymond, belle synthèse, hein? 12 pages de rapport, vous pouvez le trouver sur le site l'aérospatiale.wordpress.com ainsi que tous les liens. Raymond Poirier, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.
On t'écoute vendredi à La Vie en BD. Qui s'y passe-t-il?
Et notamment, on regarde Le Bestiaire des fruits de Sviane.
Voilà. Donc, l'invitation est lancée. On s'en va en pause audio. On écoute Freedom is an Intuition. Et au retour, on discute avec Payot et Lycérie. De retour à l'aérospatiale, en début d'émission, je vous disais qu'on allait faire un tour à l'œil de poisson. En fait, on y va métaphoriquement, puisque c'est l'œil de poisson qui sera à nous avec Peyo et Lissery. Bonsoir. Tu présentes à l'œil, tu présentes l'exposition Base 1. J'aimerais que tu m'en parles, en fait. Base 1, le titre m'intrigue même à la base, justement. Jeu de mots plat.
Écoute, en fait, je cherchais un titre qui soit à la fois très précis, mais aussi général. Puis
okay.
C'est un titre qui révèle pas tout, en fait, qui révèle rien du tout, mais que pour moi spécifie en fait l'unité de base, si on veut, l'objet de mes recherches qui se trouve à être l'image, qui est comme l'élément premier sur lequel je travaille. Puis aussi, je voulais un titre qui évoque en fait le camp de base ou le lieu d'exploration.
Okay.
Donc, c'est une exposition qui prend en compte vraiment la galerie elle-même, l'espace architectural. Donc, ce titre spécifie aussi ce lieu que je m'approprie grâce à l'image, si on veut.
C'est d'ailleurs récurrent chez toi hein, de partir du lieu pour travailler à la Galerie des arts visuels. Quand tu avais travaillé, tu t'étais inspiré de l'espace, tu as fait la même chose à l'œil de poisson. Mais là, dans ce cas-ci, tu t'es beaucoup intéressé à la mise en espace, à la présentation des œuvres.
Oui, tout à fait. Je voulais revisiter les systèmes de présentation de l'image peinte, en fait. Mais aussi, je trouve que justement par rapport à la Galerie des arts visuels, puis l'œil de poisson, qui est un centre d'artistes, c'est des bons endroits pour tenter certains trucs, pour faire de l'exploration, en fait, ce qui se fait un petit peu moins dans des galeries commerciales,
ben ouais.
Tout ça. Donc, je profite tout simplement du lieu pour déployer un travail qui est différent un petit peu de ce que je peux faire comme pièce unique, là, ou comme... En fait, ce que je présente, ce sont pas des tableaux autonomes, des pièces uniques, finies, c'est plutôt des ensembles, c'est des assemblages.
Oui, c'est ça. Donc, chacun je dis des éléments, mais bon, chacun des assemblages, justement, mm-hmm. entre en interaction. Moi, je pense à cette grande fresque là, qu'on a quand on entre par la porte régulière de l'entrée régulière de l'œil de poisson, une grande fresque avec des volumes au mur, avec comme des éléments comme du bois, tout ça qui viennent comme ajouter une dimension sculpturale. Les deux fonctionnent ensemble nécessairement, donc pas indépendamment.
Ouais, donc je parlais d'assemblage, mais on pourrait même dire des dispositifs, c'est-à-dire que les éléments qui sont présentés ensemble agissent, puis ont chacun leur référence, puis forment une nouvelle image, si on veut, à partir des données qui sont déjà existantes dans l'histoire de l'art, par exemple, ou dans l'histoire de généralement, l'histoire de l'image, la culture générale. Puis cette murale dont tu parles, qui est complètement sur le mur du fond quand on rentre dans la galerie, en fait, ça, c'est intéressant de spécifier que c'est le paysage qui a été réalisé, sur lequel j'ai apposé des matériaux ou des volumes géométriques, a été réalisé par... des brosseurs de décors, des peintres scéniques, en fait.
Ah ouais, OK. Donc, c'est pas toi ouais. qui l'a
fait? Non,
il
s'agit de Vano Otton et Amélie Trépanier qui ont okay. réalisé, que j'ai engagé, en fait, comme assistant, puis qui ont réalisé cette murale qui est de type un peu l'archétype du paysage classique.
Ouais, oui, c'est ça, vraiment.
Donc, des bordées d'arbres en haut contraste qui ouvrent sur un paysage, une perspective atmosphérique qu'on voit au loin, des petites montagnes, un lac, tout ça. Donc, pour moi, je voulais qu'il le réalise parce que ça m'apparaissait intéressant de prendre cette image-là comme une donnée objective, à même titre que les matériaux les volumes géométriques que j'ai apposés dessus et des assemblées, de faire un assemblage, un nouvel assemblage, en fait, grâce à ces données-là. Donc, c'est vraiment deux approches qui s'affrontent.
Ouais, c'est
mais
ça,
à la fois qui font une nouvelle unité, si on veut.
Parce qu'il y a un contraste quand même, là, qui est quand même assez marqué, justement, tu sais, dans la finesse, l'exécution, le détail, le caractère classique, l'aspect un peu plus géométrique des volumes ou encore brut des matériaux. Mais ce contraste-là, on l'observe aussi ailleurs. En tout cas, moi, je l'ai observé ailleurs dans l'exposition, là, le diptyque sur le mur de droite avec ce tableau noir avec un... sur un rectangle, parce qu'on l'imagine toujours un peu là, qui se termine en dehors du cadre, jaune, puis un paysage avec ce qui me semble être un lac ou une rivière, des maisons, tout ça. Donc encore là, il y a le contraste qui se poursuit à cet endroit-là.
Oui, tout à fait. C'est vraiment la suite de la réflexion, en fait. Puis c'est vraiment... je travaille sur deux côtés complètement opposés de l'approche picturale, à savoir plus une approche de l'abstraction géométrique, si on veut, puis une approche de la figuration, de l'image représentée, le paysage même. Donc, les ajuster ensemble pour voir ce que ça peut donner, mais pour mettre de l'avant leur confrontation, mais aussi pour voir où ça peut nous mener, ce nouvel assemblage.
Parce qu'au final aussi, ta peinture, c'est une réflexion justement sur la peinture, sur l'espace, sur les moyens, en fait, de la peinture. Donc, j'imagine que tout ça s'inscrit dans une réflexion global à ce niveau-là?
Oui, oui, tout à fait. Mon travail, il peut flirter à la limite avec une approche plus conceptuelle, disons, de la peinture, parce que ça prend en compte justement toute l'histoire de l'art, puis ce qui s'est déjà fait pour en arriver à cette présentation. En fait, c'est pas quelque chose de fortuit, tout est pensé.
Puis ça faisait combien de temps que tu y pensais à cette avenue-là que tu explores à l'œil de poisson?
Ben écoutez, de toute façon, les dossiers sont soumis beaucoup d'avance avant d'être sélectionnés, de pouvoir... tout le processus de sélection est assez long. Donc j'avais une petite idée, mais c'est vraiment dans la réalisation quand même que se concrétise tout ça, toutes ces pensées-là. C'est pour ça que je dis qu'il est plus conceptuel, sans dire c'est conceptuel, parce que ça serait mentir, en fait, parce que le point final de cette exposition-là est plastique. Donc, ça fait... j'ai travaillé peut-être 5 mois sur la réalisation, sur pensée, puis ensuite, ce qui est spécial pour cette exposition-là, c'est que l'œil de poisson m'a gracieusement permis d'avoir un montage qui a duré 2 semaines pour pouvoir avoir le temps de réaliser cette fameuse murale et puis faire mes interventions sur place qui étaient pensées, mais pas déterminées, pas complètement déterminées. Donc, puis
il fallait organiser
certains éléments à construire. Comme par exemple, quand on rentre tout de suite à droite, il y a un type de présentoir à dessin qui a été réalisé sur place.
OK.
Et puis qui sert à présenter une quinzaine de dessins.
C'est ça, des dessins, là. Donc, on est vraiment dans le plus petit format, mais encore une fois, on a ces représentations plus géométriques et, dans ce cas-ci, des éléments végétaux, principalement, il me semble, que j'ai observé, des papillons, la végétation. Qu'est-ce qui t'a guidé un peu dans le choix de ce qu'on voit, en fait, sur ce présentoir-là?
Ben, en fait, le présentoir, pour moi, c'est une structure qui est récurrente dans les musées, par exemple, plus à teneur anthropologique.
Ouais, ouais, ouais.
Donc, des tables de présentation, souvent d'artefacts ou un inventaire, tout ça. Donc, pour moi, ça évoque ce dispositif-là. Puis, il évoque aussi, donc, l'encyclopédie, si on veut. Donc, un amalgame de plein d'images qui sont sorties de leur contexte, qui sont mises ensemble et puis qui sont utilisées, en fait... si l'image est très grande, ben on va pouvoir en mettre seulement 2 petites à côté. Puis c'est pour des préoccupations formelles, finalement, qu'on place les images l'une à côté de l'autre dans une encyclopédie ou dans ce genre de présentoir. Donc c'est ce même genre de pensée-là qui m'a guidé dans un choix très, très hétérogène, en fait, d'images. Puis c'est ce que je veux amener comme point aussi, c'est toujours cette possibilité-là de ce balancement, en fait, entre quelque chose de concret, une forme, une substance, puis une représentation, la figuration justement des figurations organiques qu'on reconnaît comme un arbre ou un papillon ou quelque chose comme ça. Mais en fait, dans cette expo, tout c'est vraiment des préoccupations formelles qui ont guidé la réalisation de l'exposition. Et puis, s'il y a des images qu'on peut reconnaître qui apparaissent, c'est un peu à la manière d'artefacts.
Oui, je comprends. Donc, il n'y a pas quand tu regardes ça, autre que l'aspect formel, justement, pour toi, il n'y a pas un sens nécessairement, nécessairement, une narration, donc on évacue là, tout ça.
Il y a
là.
Plusieurs sens, mais en fait, je ne cherche pas l'aspect narratif dans mon travail. Je laisse au spectateur se faire une idée. Après, c'est toujours plaisant de regarder une image puis de se faire soi-même son histoire,
ben
de faire référence à ce qu'on connaît finalement, que l'expérience visuelle devienne riche finalement. Puis c'est un peu pour ça en fait que je fais de l'art aussi, pour que les gens puissent se projeter.
Mm-hmm.
Mais moi-même, j'essaye pas de vous cacher un sens précis. Il n'y a rien de précis, une histoire précise.
On est plus vraiment dans l'ordre, comme la réflexion aussi, là, de manière générale.
C'est ça. Oui, tout à fait.
J'ai remarqué, parce que là, j'ai parlé des contrastes, on parle des allers-retours entre caractère géométrique, plus organique, tout ça, mais il y a quand même, au niveau des couleurs, à tout le moins dans ce présentoir-là, il y a quand même une unité des couleurs, plus du gris, du vert, même dans l'ensemble de l'exposition, c'est sûr que bon, on a ce grand rectangle jaune qui vient confronter dans le paysage, le bleu est peut-être plus éclatant, mais ta palette de couleurs, je sens qu'elle se limite encore de plus en plus. Est-ce que je me trompe?
Non. En fait, c'est purement par choix formel, puis aussi par souci d'aller à l'essentiel, donc de me donner le moins de possibilités possibles pour arriver à quelque chose de plus efficace possible. Et puis pour moi, c'est vraiment des couleurs qui se rapprochent du noir et du blanc, donc
ouais.
Des teintes de gris ou des couleurs délavées, si on veut.
Ouais, c'est ça.
Pour moi, ça ramène de plus en plus à quelque chose qui est primaire, là, c'est-à-dire le noir, le blanc, quelque chose d'assez simple, somme toute, qui permet de justement pas me casser la tête avec trop de données. Trop de données plastiques. Je veux limiter les choix pour pouvoir arriver à quelque chose de plus efficace.
Mais sur ton site, en fait, il me semble que j'ai vu ça sur ton site, ou sinon c'est dans le communiqué, c'est justement, tu dis, je pense que c'est comme utiliser le moins possible pour dire le plus possible, donc ça s'inscrit un peu là, dans cette idée-là.
Oui, c'est quelque chose qui me tient à cœur là, dans ma démarche.
En terminant, Payo, c'est une question qui peut paraître anecdotique, mais moi, j'ai remarqué la chose, puis je me suis vraiment posé la question. La porte du couloir, donc de l'entrée de l'œil de poisson, tu l'as laissée ouverte. Je pense que c'est la première fois que je vois ça à l'œil. Qu'est-ce qui t'a amené à prendre cette décision-là?
C'est une belle constatation, mais comme je disais, tout est pensé. Puis moi, ce qui m'importait aussi, le mur de gauche est complètement, le mur qui comporte les deux entrées est complètement
laissé vide,
blanc. Donc pour moi, c'est un respire, c'est un gage de circulation. Les gens peuvent circuler, ils sont pas obligés de rentrer comme dans un cul-de-sac puis de rebrousser chemin. Ils peuvent circuler dans cette exposition-là. Puis ça fait deux entrées aussi qui permettent d'avoir deux points de vue différents, qui permettent de mieux comprendre comment est structurée l'exposition.
Qui modifie l'expérience aussi
par
rapport aux œuvres, donc un point de vue qu'on n'a pas habituellement.
Oui.
Mais voilà, Payo Lisséry, merci beaucoup.
Ben, je te remercie.
Donc, base 1 est présentée à l'œil de poisson jusqu'au 23 mars. On a le temps, mais on y va quand même assez rapidement parce que sinon, on a tendance à oublier. En tout cas, je parle pour moi. Voilà, on s'en va en pause. Au retour, on discute avec Dominique Savoie.
Québec. Du 18 janvier au 15 mars, le diffuseur d'événements cinéma et vidéo Antitube présente Panorama des cinémas du présent 3. Au menu, une sélection de films contemporains, d'ici et d'ailleurs, réinventant les formes cinématographiques d'avant-garde et souvent inédits à Québec. Les projections auront lieu les samedis à l'auditorium Roland-Arpin du Musée de la Civilisation, au Studio P et au Complexe Le Cercle. Pour de plus amples informations et pour découvrir la programmation complète, visitez antitube.ca. Depuis 1995, Antitube présente le meilleur du cinéma à Québec.
Spécial Arts visuels. Le magazine culturel Bazar s'intéresse au monde des collectionneurs. Dans son tout nouveau numéro, allez-vous aussi à la rencontre du marché de l'art actuel à Québec. Bazar, c'est la vitrine sur les arts et la culture, disponible gratuitement dans plus de 250 commerces et organismes culturels d'ici. Pour info, bazar.qc.ca.
Rencontrez deux fois plutôt qu'une le documentariste Hugo Latulippe. Il sera de passage à Québec pour offrir une classe de maître le 23 mars à 14h au Cercle. Présenté en collaboration avec Première Ovation. Le 24 mars à 19h, dans le cadre du Ciné-Club Spirafilm, voyez Ce qu'il reste de nous, le documentaire coup de poing sur la situation des Tibétains. Hugo Latulippe sera sur place pour discuter avec le public après la projection. À la salle Sylvain Lelièvre du Cégep Limoilou, le 24 mars à 19h. Le Ciné-Club Spirafilm est présenté en collaboration avec le Service d'animation socioculturelle du Cégep Limoilou, le MCCF, Télé-Québec, monlimoilou.com, le Bal du Lézard, chez Fratelli et CKRL. Plus de détails, spirafilm.com. Quoi de mieux que de faire la différence dans la vie de quelqu'un? Le Centre de parrainage civique de Québec est à la recherche de bénévoles désirant développer une relation d'entraide et d'amitié avec une personne vivant certaines incapacités. Pour temps libre par semaine, vous pourrez faire de belles activités en compagnie d'une personne filleule. En devenant parrain ou marraine civique, vous l'aiderez à briser son isolement. Informez-vous au 527-80-97 ou au cpcq.ca. Vous possédez une carte de membre de CKRL?
Économisez 10 % à chaque fois que vous faites un achat au Centre de yoga de Québec, 1355 3e Avenue. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique.
Et voilà, on est de retour à l'aérospatiale. J'accueille à l'instant Dominique Savoie. Bonsoir.
Salut.
Dominique, tu es allée faire un tour à la galerie Michel Guimond?
Oui, je suis allée voir ce que proposait la galerie Michel Guimond sur la rue Saint-Paul. En fait, c'est l'exposition 3-2.
Donc, deuxième édition.
Deuxième édition. Donc, qui propose une exposition collective de Claudie Gagnon, Jacques Sanson et Annie Baillargeon. Trois artistes de Québec. Trois artistes aussi qu'on est habitué de voir un peu comme coopérer ensemble. Je parle surtout Claudie Gagnon, Jacques Sanson.
Oui, puis Claudie Gagnon, il me semble, ça fait, là, à part son œuvre là, à la bibliothèque Monique Corriveau, ça fait un certain temps qu'on ne l'a pas vu en galerie à Québec.
Effectivement, effectivement. C'est ça. Les trois artistes proposent des nouveaux projets, en fait, pour cette exposition-là. Claudie Gagnon, qui est surtout connue, elle, pour une artiste multidisciplinaire, mais très connue surtout pour ses tableaux vivants.
Ouais.
Donc, propose cinq pièces, il me semble, cinq ou six pièces. Donc, ce sont des photographies. Tirées pour quelques-unes, en fait, de vidéos de tableaux vivants, d'autres, en fait, qui ont été prises là, sur le vif. Puis, c'est beaucoup un travail de mise en scène. Une particularité avec Claudie Gagnon, justement, on parle de tableaux vivants, c'est qu'elle reprend souvent des classiques de l'histoire de l'art. C'est le cas, entre autres, de trois tableaux qu'on peut retrouver dans la galerie, entre autres celle qui fait un peu office
de visuel
pour l'exposition, c'est Le clown, le capitaine, le poète et la femme au long cou, qui est une reprise en fait d'Edward Hopper, Le soir, une toile de 1914. Donc, on retrouve exactement, en fait, la même mise en scène. Mais ce qui est particulier avec Claudie Gagnon, c'est que des fois, elle pousse un petit peu plus loin. C'est comme si on pourrait s'imaginer, des fois, parce que ce sont des tableaux vivants, comme une suite au tableau.
Ouais.
C'est ce qui est intéressant. Elle propose aussi deux autres toiles, photographies, disons, dans le même genre. Il y en a une qui c'est La beauté du spectacle, d'après Autodix.
Ouais.
Donc, d'après l'œuvre À la beauté de 1922. Et une autre, d'après Francesco Zurbaran, Sainte-Agathe.
Qui présente Paris Martin.
Oui, exactement. Donc, Paris Martin vêtue en Sainte-Agathe. Et moi, c'est peut-être une de mes photographies préférées du lot. Là. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas un peu Sainte-Agathe, c'est une jeune Italienne de l'époque romaine qui a été condamnée pour avoir refusé les avances d'un consul romain. Puis, comme pénitence, en fait, comme punition, on lui a coupé les seins. Et sur le tableau, on la retrouve avec un plateau d'argent. Donc, c'est sain sur un plateau d'argent.
Ouais.
Ici, ben, on voit bien que c'est comme deux petites gelées. Ça fait un peu penser, justement, là, à des prothèses mammaires.
Ouais, du silicone.
Exactement,
là.
Exactement. Donc, la photographie, la mise en scène de Claudie Gagnon est très proche, quand même, de l'original de Zurbaran, qui date quand même là, de l'âge d'or espagnol, c'est-à-dire le 17e siècle.
Ce que j'ai trouvé fascinant en regardant ça, moi, c'est le regard.
Effectivement.
De Paryse Martin. Dans son regard, puis on était plusieurs, un de mes collègues était à la galerie en même temps, puis dans son regard, il y a cette espèce de vulnérabilité, hein, une espèce de souffrance, une douleur. Puis il y a aussi un, pas un affront, mais un « as-tu quelque chose à dire? »
Ouais.
Sous moi.
Une genre d'audace t'sais, en même
ouais,
temps.
Oui, une audace, mais tu sais, une manière de regarder le spectateur qui... On va prendre notre place là.
Ouais, c'est ça, c'est un peu
loin que...
C'est un peu justement deux facettes de la femme qui est bien représentée ici, cette vulnérabilité là, on lui a coupé en fait ce qui fait d'elle son atout féminin principal, puis cette force là qu'elle présente parce qu'elle se tient bien droite, puis elle offre sur son plateau en fait sa poitrine. Donc il y a ça là, qui se rencontre en même temps. Puis avec l'effet d'éclairage, tout ça, c'est une très belle pièce là, qu'on retrouve là, à la galerie Michel Guimond. Je vais aussi parler des autres
artistes.
Ben oui,
poursuivons.
Donc pour sa part, Jacques Sanson, lui, nous propose des sculptures. En fait, il est connu surtout pour son travail sculptural, toujours à la fois très organique, farfelu, même très graphique dans son travail. Dans d'autres expositions, j'ai surtout été habituée à ces sculptures en crochet, ces sculptures molles.
Ouais, ouais, ouais.
Là, il nous présente en fait des sculptures faites de métal cuivré, de la broche, ou encore métal tubulaire. Patiné.
Oui, c'est nouveau ça, de plus gros format, parce que sa broche, là, il la travaille, je pense, depuis... en tout cas, au moins 3-4 ans là, que j'ai vu ça, il avait fait à la manif là, dans la vitrine au Grand Théâtre.
Effectivement. Puis là, ben, le tubulaire, moi, c'était quand même la première fois que je voyais ça. Dans son travail, du moins. Là. Puis il poursuit un peu sa recherche de la forme, en fait. Là, on reconnaît facilement des formes qui se rapprochent beaucoup du monde animalier. Là. On peut pas cacher que ce matériau, là, donc la tubulaire en métal, donc ça rappelle un peu les bois des cervidés, mais ça peut aussi rappeler différentes
les
ramifications,
veines,
exactement, le système veineux. Puis même ces formes aussi, exactement. Donc ces formes qui rappelle souvent des formes donc animalières, mais rappelle aussi des organes humains. On voit plusieurs choses dans
les
ces
cellules,
sculptures.
Des formes aquatiques aussi, là, surtout dans celles qui sont plus travaillées comme en broche.
C'est ça, le métal cuivré, le patiné. Puis, il y a quelque chose aussi parce que c'est très... avec cette broche-là, on va dire, il y a quelque chose de très... quadrilatère, donc le côté, moi, ça me faisait penser un peu, je sais pas si tu as déjà vu ça, les mandalas péruviens, qu'on bouge en broche, puis qu'on bouge, puis ça fait différentes formes, mais ça me rappelait un peu ces formes-là, des fois, je pousse trop loin, mais il y avait quelque chose de presque méditatif quand j'observais.
Très contemplatif, à tout le moins.
Exactement. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que quand j'y suis allée, on était comme à la tombée du jour, puis ben l'effet de la lumière dans la galerie sur ces sculptures qui sont accrochées, l'ombre était intéressante également à regarder. Donc, je trouvais
que... Oui, c'est vraiment pensé, ça, ça c'est certain. Là, c'est comme une manière de continuer, en fait, la sculpture dans un espace plus matériel. Là.
Exactement, donner quasiment un apport vivant pour de vrai, là. Puis finalement, l'autre artiste, Annie Bayarjon, aussi surtout connue pour ses performances, elle est membre fondatrice des Fermières Obsédées, puis pour son travail photographique, photomontage photographique. Ici, elle présente en fait différentes œuvres. Il y a des œuvres qui sont un peu plus, disons, anciennes entre guillemets, mais qui datent de 2009, 2011, et elle présente des nouveaux tableaux. donc qui sont des photomontages qui sont rehaussés à l'aquarelle.
Ouais, c'est pour ça que tu parles de tableau, hein. C'est
oui,
pas, hein, c'est
exactement.
Pas
puis c'est pas reproduit sur un papier photographique, mais sur un papier qui pourrait se rapprocher du papier aquarelle, justement. Ouais. Ce qui donne une texture différente aussi, un grain différent à la photo. Et cet ajout, ce côté rehaussé à l'aquarelle, ben je trouve que ça rajoute quelque chose de nouveau, frais dans son travail. C'est un travail très méticuleux que Annie Baillargeon fait.
Ah ouais, premièrement, c'est un travail de performance.
Exactement.
Hein? Donc, elle se met en scène dans différentes situations. Puis après ça, c'est un travail de montage pour créer, moi j'appelle ça comme presque des mosaïques, en
oui,
fait. Là,
exactement. Mais elle crée des motifs.
Oui,
avec,
oui,
en
des
fait,
motifs, c'est ça.
Son sujet, c'est vraiment une réflexion sur le corps féminin, sur l'espace, puis sur la forme. Puis avec cette performance-là qui est photographie souvent en hauteur, en
effectivement,
fait.
On voit très peu son visage aussi.
Rarement, c'est surtout le corps qu'on voit et le mouvement. Là. Donc, quand elle fait son photomontage, ça crée vraiment un motif. Puis là, je pousse encore, c'est le motif qui devient presque une dentelle, puis encore une
ouais,
fois,
ouais.
qui me rappelle un peu le lien avec Jacques Sanson, donc le côté mandala, là, mais ça, c'est dans ma tête. Mais,
non, je vois ton lien, je le vois par exemple.
Elle a ce travail-là qui est toujours aussi complet dans sa photo, mais là, elle a rehaussé en plus avec du dessin.
Oui, une autre dimension. Là,
une autre dimension, en tout cas, qui est un peu nouvelle quand même là. Moi, j'avais pas encore vu de ces pièces-là, là. Donc, je trouve ça intéressant. Ça rajoute une couche supplémentaire à son travail.
Elle vient mettre du mouvement, ajouter des cheveux,
de la couleur, de aussi choses. De l'impact. Il y en a une où est-ce qu'elle rehausse avec du rouge, puis ça rend, disons,
ouais.
le côté agressant, passionné encore plus fort. Donc, c'est intéressant. Elle augmente un peu, donc justement le côté, disons, dramatique presque de certaines photos pour justement donner un impact plus puissant, ce qui, selon moi, est très fort, justement.
Oui, je trouve que c'est une nouvelle avenue qui est vraiment intéressante. J'ai hâte de voir si elle va continuer
moi
dans
aussi,
cette voie-là.
Comment elle va
qu'est-ce
poursuivre?
Qu'il va en être? Parce que... aussi son travail, parce que moi, ce que je trouve du travail d'Annie Baillargeon, c'est vraiment une finesse, là, une netteté qui est vraiment une précision
oui,
là, qui est magnifique. Puis ses interventions sont très fines aussi, très très précises aussi, donc viennent pas nécessairement entrer en contraste là,
oui,
avec
puis
avec
elle choisit. Elle a choisi l'aquarelle aussi, un autre médium qui demande justement
oui.
beaucoup de finesse, de précision. Puis avec sa photo, donc ça s'allie bien. Puis elle a souvent dans ses photographies un fond de ciel, un fond justement des fonds un peu plus
de la neige, des végétaux.
Exactement. Donc quelque chose déjà très doux, on va dire là, qui crée une atmosphère un peu calme. Mais même si le mouvement n'est pas nécessairement calme, là, mais ça avec l'aquarelle, je trouve ça communique bien, ça va bien ensemble. Puis, les trois ensemble aussi, quand on arrive dans la galerie, ben ça fonctionne très bien également. Là. Donc, c'est une petite galerie Michel Guimond, donc on en fait le tour quand même assez rapidement, mais chaque pièce est intéressante, donc on peut passer quand même plusieurs minutes devant chaque pièce, parce qu'il y a beaucoup de détails, je pense, entre autres, Annie Baillargeon, Claudie Gagnon, à observer, puis ça plaît au public, justement, de pouvoir voir tout ça.
J'ai parlé, quand j'y suis allée, j'ai demandé à Michel Guimond qu'est-ce qui l'avait amené à choisir ces trois artistes-là, parce que la première fois qu'il y a eu l'édition de trois, c'était José Landry-Sirois qui avait invité Paryse Martin et Diane Landry à exposer avec elle. Fait que je demandais si c'était quelque chose de cette nature-là, et non. Mais je trouve que ça fonctionne au même titre, justement, que la première édition. Puis il m'a dit, ben, dans le fond, il dit, je les connaissais, j'ai eu envie de travailler avec eux, puis finalement, j'ai vu leurs œuvres et là, je me suis dit, bon, c'est beau, ça marche. Fait que, tu sais, quelque chose de très, très, très intuitif, en fait, là, dans l'association de ces artistes-là. Et c'est vrai que ça marche. On pourrait pas nécessairement qualifier les raisons pour lesquelles ça fonctionne, mais il y a une unité malgré le fait qu'on est dans trois univers vraiment différents.
Effectivement, ça communique bien ensemble. On est capable, à la limite, peu importe qui va voir, est capable quand même de trouver justement une espèce de mot un mot-clé qui les rassemble
ouais.
là, ensemble. Puis ça vaut la peine d'aller faire un tour. C'est là jusqu'au
20,
au 16 mars.
16 mars.
Donc
voilà.
Ça va vite, on a encore un petit peu plus qu'une semaine.
Voilà. L'invitation est lancée. Dominique Savoie, merci beaucoup.
Merci.
On fait une pause, on écoute la pièce de Barricade sur les ondes de CKRL. Voilà, après un détour à la galerie Michel-Guimont, on revient avec à l'œil de poisson pour voir l'exposition Pau-Pau dans la petite galerie. Et non, je recommence, Bagarre dans la petite galerie Pau-Pau à l'entrée vidéo des œuvres du travail de Mario Doucette. Bonsoir.
Oui, salut.
Ça n'a pas été facile. J'ai réussi à m'en sortir. Mario Doucette, j'ai envie de parler de Bagarre en premier dans la petite galerie. Peux-tu un peu nous présenter ta réflexion autour de cette série-là?
C'est une série qui s'appelle Bagarre, que j'ai commencé en 2009. C'était après avoir réfléchi par rapport à l'histoire ou qu'est-ce qu'on connaît de l'histoire, la perception que nous avons de l'histoire. Et souvent, ce sont les historiens qui sont d'un point de vue vainqueur. Si on parle de l'histoire de l'Acadie, je pense même de l'histoire du Québec. Alors, je me suis intéressé à savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans tout ça.
Puis, dans le fond, dans tes tableaux, tu travailles cette notion-là, justement. Tu dis avoir une interprétation révisionniste. Donc, c'est ce qu'on voit dans les œuvres.
Oui.
Peux-tu nous parler un peu, parce que bon, l'histoire acadienne ici, on la connaît quand même là, peut-être d'un peu plus loin. On connaît bon la déportation des Acadiens, tout ça. C'est quoi les sujets que t'as mis de l'avant dans les œuvres de l'expo?
C'est que dans l'histoire de l'Acadie, ça nous les gens qui connaissent surtout en Acadie, ce sont les histoires du livre de Longfellow. C'est l'histoire de l'Acadie qui a été propagée un peu autour du monde. Et puis les artistes aussi du 19e siècle sont beaucoup inspirés de ce poème.
Okay.
Alors l'image que nous avons de l'histoire de l'Acadie, ça vient des peintres anglais, américains et même français qui n'ont jamais vraiment connu l'Acadie, mais qui se sont basés sur le poème romantique de Longfellow. Alors il n'y a aucune notion de la milice acadienne qui a dû faire la guerre contre la déportation. Il y a des gens qu'on peut considérer comme des héros, qu'on ignore totalement. Puis aussi, on ignore le fait des Premières Nations, les Mi'kmaq, qui étaient des alliés très, très forts par rapport à l'Acadie. Alors, je voulais remettre en question qu'est-ce qui manquait de ces notions historiques par rapport à l'Acadie.
Justement, il y a un des tableaux, c'est la déportation des Acadiens. En fait, c'est une des deux versions. C'est un tableau qui est quand même assez violent parce qu'il y a eu résistance, justement, de la part des Acadiens, là.
Oui, tout à fait. Le tableau, c'est une version du peintre Sir Frank Dixie, peintre du 19e siècle romantique. Et sa version, si vous allez voir sur Internet, il démontre les Acadiens assez... c'est passif, ils attendent patiemment le bateau. Puis on sait, puis on connaît aujourd'hui des faits de certains soldats qui étaient là à l'époque, que c'était le contraire, c'était le chaos total, parce qu'on séparait les mères et les enfants et les familles. Puis il paraît que c'était très violent. On peut juste imaginer des scènes assez contraire à la version de Frank Dixie. Alors, je voulais faire de quelque chose qui était plutôt réel ou réaliste.
Oui, donc rétablir les faits d'une certaine manière.
Oui, exactement, oui.
Ce tableau-là, il y en a deux versions parce que, en même temps, si je ne me trompe pas, il y avait deux expositions, Projet Peinture et une exposition au Massachusetts Museum of Contemporary Art.
Exactement.
Il y a d'autres tableaux aussi où il y a deux versions. Je pense entre autres à Robert Monckton.
Ouais.
Dans un, on le voit, bon, dans les deux cas, il y a son épée sanglante à la main, il est triomphant, le pied sur un des cadavres à ses pieds. Dans un des cas, comme celle dans l'exposition qu'on voit, il y a pas de lion, je crois, il y a un canon. Et dans l'autre, il y a un lion. Est-ce que c'est des interprétations différentes que toi tu fais?
Ben, c'est de même que les deux versions de la déportation, c'est qu'il y avait deux expos qui voulaient, okay, les mêmes œuvres.
Ah oui, bon.
Alors j'ai créé deux versions presque identiques, mais dans le portrait de Monckton, qui est d'après le peintre West, un peintre américain, effectivement, il y a une version avec le lion, qui est présenté par Omer Smoker. Puis la version qui est à l'œil de poisson, il y a trois hirondelles. Ça représente aussi les armoiries des gens, des personnages.
Ouais.
Et Robert Monckton, comme qui était issu de la noblesse, sa famille, c'était trois hirondelles. Alors, okay, dans le tableau, en quelque part, il y a trois hirondelles.
Et j'ai envie qu'on parle un peu du caractère néoclassique. Je pense même dans le communiqué, il y en est mention.
Oui.
Qu'est-ce qui t'a amené à un travail, justement, ou à une mise en espace néoclassique, à ce traitement-là?
Bien, j'étais beaucoup intéressé dans le mouvement néoclassique, surtout en peinture, parce que la plupart des artistes créaient vraiment des œuvres politiques.
Oui.
Ils étaient, tu sais, on pense à Jacques-Louis David, qui a fait vraiment l'image de l'empereur Napoléon, comme un grand chef, comme presque comme un dieu, en
Mais
fait,
ouais.
En travers de l'histoire. Et dans ces tableaux de Jacques-Louis David, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Mm-hmm. C'est beaucoup de choses que l'empereur lui-même a incité, qu'il fallait placer. Alors, j'ai trouvé ça intéressant que moi-même, si je conteste que l'histoire est fausse ou qu'on devrait toujours raconter la vraie histoire, j'invente aussi mes propres choses, puis je considère mes œuvres comme politiques. Alors, je fais un peu ma propagande, mais du point de vue acadien.
C'est ça, donc ce caractère de propagande-là sert ta réflexion, finalement.
Exactement, oui. Puis la façon, dans le néoclassique, la façon qu'on place les objets ou les gens... la façon qu'on compose un tableau, c'est tout à fait pour que les gens soient sensibles au message. Puis je trouve ça...
Servir ces idéaux-là, ou à tout moins ces idées-là, sans...
oui.
Parce que la notion d'idéal, elle n'est pas toujours présente. D'ailleurs, parlant de néoclassicisme, parlant de composition des tableaux, moi j'ai envie de m'intéresser à la facture aussi, parce que dans les œuvres, souvent les victimes, donc les Acadiens, sont présentés, sont plus pâles, sont nus.
Oui.
Contrairement aux soldats, mettons par exemple aux soldats anglais. Pourquoi hein, ce contraste-là, aussi marqué?
C'est un autre aspect du néoclassisme, c'est que quand on représente les gens qui sont au-dedans de l'humain, puis si on représentait par exemple la noblesse, le roi ou la reine, ou même les dieux ou les déesses des anciennes histoires, c'était souvent nu ou en toge romaine.
OK.
Si on les habillait avec des pantalons ou avec une robe, c'était un genre d'insulte qu'on faisait à ces gens-là. Alors, il faut, pour moi, les Acadiens de l'époque, parce qu'on ne connaît pas l'histoire, il n'y a aucune trace de la déportation d'un Acadien. Pour moi, c'est des gens qui n'existaient pas ou qui existaient très peu. Alors, j'ai voulu les transmettre au-delà de l'humain.
Ah, OK, moi, je vois... Excuse-moi, drôle de réaction. Je vois l'idée, excuse-moi. Il y a quelque chose aussi que je trouve intéressant visuellement, c'est l'aspect à la fois pictural et à la fois dessiné des œuvres. Hein. Souvent, ce sont des médiums mixtes.
Oui.
Et là, dans l'exposition aussi, tu as 3 peintures à l'huile.
Oui, ça c'est nouveau. Je suis mis à la peinture à l'huile, c'est récent. Puis les 3 premiers tableaux sont à l'œil de poisson. Comparé aux œuvres auparavant, c'était surtout du pastel, un pastel sec.
Ouais.
Avec de l'encre, avec crayon couleur, avec l'acrylique et avec d'autres médiums. Alors, c'était plutôt dessin, je veux dire dessin, mais sur du bois.
Mm-hmm.
Puis là, je suis rendu avec seulement avec l'huile. Ça change un peu les méthodes ou l'aspect visuel aussi, ça change beaucoup.
Est-ce que c'est une avenue que tu veux continuer à mettre de l'avant?
Je pense que oui, parce que je m'intéresse beaucoup à ce qui a été fait dans l'histoire de l'art. Si je reprends des choses qui ont été faites par rapport à l'Acadie, à l'histoire, dans l'histoire de l'art, je pense que c'est la peinture à l'huile qui m'intéresse de plus en plus.
Voilà. Ben, oui. Mario Doucette, c'est malheureusement tout le temps qu'on a.
OK.
Donc, je te remercie. Il y a aussi Pau-Pau là, dans l'entrée vidéo, donc à ne pas manquer, on n'aura pas eu le temps d'en parler. Donc, l'exposition est présentée jusqu'au 23 mars à l'œil de poisson. Donc, merci beaucoup.
Merci à vous.
On fait une très courte pause. On écoute un petit extrait de la pièce Fool's Game. Voilà, donc c'était un très court extrait de la pièce Fool's Game de Frank Wilke, Stanislav Bobritsky, André D. Enerograph. C'est tiré de l'album Diary of a Dissident qui est distribué par Hayes Net Label. Une suggestion de Simon Roy. Vous pouvez trouver l'émission en balado-diffusion, les liens pour la revue de presse, pour le téléchargement des pièces et les communiqués du domaine des arts visuels sur le site laérospatiale.wordpress.com. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook. Je remercie mes invités, je remercie mes collaborateurs et Jacques Gignac pour son travail à la mise en onde. En terminant, je vous invite, vous savez pas, mais je vous l'annonce, jusqu'au 9 mars, c'est le mars de la maîtrise aux ateliers Déroulement AB, donc les étudiants à la maîtrise, notamment en arts visuels. Vous pouvez trouver des informations sur le site arv.ulaval.ca. Il y a une soirée de performance qui est prévue jeudi 6 mars à 19h, également vendredi 7 mars à 17h à Materia. C'est le vernissage de Stéphane Langlois, son exposition Anomalie. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée sur les ondes de CKRL, puis restez à l'écoute avec Gilles Chaumet, les Folk d'Amérique.